Dominic Thiem, le champion, enfin champion Grand Chelem, au terme d'un match complètement fou, Nicolas Richard. Bienvenue à l'épisode 11 de Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par la Banque nationale. Déjà 11 épisodes, Nico. Nico qui est à la ferme aujourd'hui, a joué
Oui,
les
voilà.
fermiers déplacés du foin, mais prend le temps quand même de faire le podcast. Merci de prendre du temps pour nous. Nico, ça va bien?
Ben, ça va hyper bien, surtout avec la fin de semaine tennistique qu'on a eue. Ça donne juste le goût de taper des balles et de sortir dehors avec cette belle température. Là, tout est fait en sorte qu'on ait du plaisir aujourd'hui.
Deux matchs complètement fous, autant du côté des femmes que du côté des hommes, là, des rebondissements incroyables. Deux débuts de match complètement fous, ouais, tu avais dit.
Il s'est passé quelque chose aussi à Istanbul, on y reviendra plus tard.
Ben justement, aujourd'hui, on va parler de... On revient sur ce tournoi particulier qui était l'US Open. On va évidemment parler d'Eugénie Bouchard qui fait des siennes une fois de plus et qui fait parler d'elle pour les bonnes raisons. On va parler aussi de l'économie du tennis parce qu'on a Hugues Léger, qui est un spécialiste marketing, qui fait des chroniques au 91.9 également, qui a à peu près tout fait dans le côté marketing que tu peux faire. Alors, je suis très content de l'avoir avec nous. Et Nico, sans plus tarder.
Je n'attends que ça. Semaine après semaine, c'est mon moment fort de la semaine.
Es-tu prêt?
Absolument.
Nicolas Richard, épisode 11 et sans plus attendre, je vous présente Hugues Léger. Salut Hugues, bienvenue au podcast Sur la ligne. Avant qu'on commence, je vais faire une petite présentation. Là, Hugues a travaillé, c'est très varié son CV, il a travaillé notamment chez Labatt comme directeur d'innovation, a travaillé chez British American Tobacco en Europe. D'ailleurs, étais-tu là au moment de Jacques Villeneuve et BAR? C'était-tu à peu près dans
l'association, tout à fait, oui.
OK. Fait que ça a dû brasser à l'époque avec la Formule 1 dans le décor. Si je ne me trompe pas, elle a travaillé aussi pour Saint-Hubert, entre autres. Et maintenant, ben, il s'occupe de toutes sortes de projets, beaucoup de startups, dont Victoire Média. Tu veux-tu plugger un petit peu qu'est-ce que c'est Victoire Média avant qu'on rentre dans le concret du tennis, Hugues?
Oui, ben avec plaisir. Victoire, c'est une plateforme sur la culture soccer grandissante en Amérique. La Coupe du Monde, vous le savez, arrive en 2026 avec le consortium Mexique, États-Unis, Canada. Et évidemment, l'impact qui est à MLS depuis 2012, une base de joueurs amateurs qui est énorme et on sent que cette culture-là commence à se transmettre dans le mainstream en ce moment. Et Victoire Média veut se positionner pour amener des histoires de fond sur les joueurs, sur les acteurs du foot, sur tout le lifestyle qui est autour du soccer aussi en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est une plateforme qui a été lancée avec Asun Kamara de l'Impact, ex de l'Impact, que vous connaissez bien.
Et comment on a accès à ça? Est-ce que c'est déjà en ligne? Est-ce que c'est
Victoiremedia.com pour la version digitale et un magazine imprimé par année qu'on distribue.
On invite les gens donc à aller voir les fans de soccer, les fans de sport en général, aller voir Victoremedia.com. Aujourd'hui, Hugues, tu as décidé que tu allais être avec nous pour tout le podcast. On t'avait invité pour que tu nous parles de l'économie, mais tu es un grand fan de sport et du sport également. Tu es un joueur aussi. Tu joues à un assez bon niveau de tennis amateur. Alors, on est très content de t'avoir avec nous. Puis, ben, écoute, Nico, on va commencer ça directement. Nico, c'est toi qui as un petit retour de son?
Moi, j'entends bien, moi.
Ouais, OK. J'avais un petit retour de son.
Mon côté aussi, c'est bon, Alex, ça a l'air correct.
Parfait, parfait. Alors, ben, écoute, commençons donc là, en parlant du US Open. Nico, as-tu été scotché à ton sofa toute la fin de semaine pour écouter la finale des hommes et la finale des femmes?
Absolument. Il y avait tellement une diversité de sports. T'sais. Il y avait, oui, le tennis, évidemment, mais il y avait du golf, il y avait du football, il y avait du hockey, il y avait de la MLS. C'était génial pour tout amateur de sport, mais évidemment que le tennis a retenu l'attention. Et je vais peut-être vous surprendre, messieurs, mais de mon côté, j'avais une petite préférence pour la finale des dames qui se jouait samedi. Je ne sais pas pourquoi, évidemment, que la finale Team contre Zverev est une finale absolument extraordinaire, mais mon attention était portée un petit peu plus sur la finale des filles. Pourquoi, Alex? D'une part, parce qu'on a parlé de cette possibilité qu'une mère remporte le US Open. On en a parlé beaucoup à l'émission et ça a failli être le cas avec Azarenka qui a joué du tennis phénoménal et évidemment Osaka qui est toujours absolument formidable à avoir joué et qui finalement l'a emporté. Mais c'est un duel que j'attendais beaucoup et j'ai pas été déçu par ce duel.
Toi, Hugues, tu apprécies ce duel-là? L'as-tu écouté trois fois plutôt qu'une?
Ouais, ben écoute, moi je suis un fan de tout ce que fait Naomi Osaka en ce moment. Elle est pas la femme sportive la mieux payée au monde pour rien au niveau de ses prises de position, au niveau de son jeu. Elle revient avec une autre victoire en Grand Chelem. C'était vraiment intéressant. Et d'avoir Azarenka qui revient un peu de nulle part aussi, c'était vraiment US Open qui s'est terminé par un feu d'artifice. Là, tant au niveau des femmes que des hommes, ça a été un super tournoi pour nous et pour les Canadiens, évidemment.
Ceux qui avaient parié sur Osaka après la première manche devaient être stressés, pas à peu près. On a eu tout un match et moi, j'ai été vraiment surpris du niveau d'Azarenka. Ouais. Déjà, de l'avoir en finale à Cincinnati, c'était surprenant et de l'avoir joué aussi bien. Écoute, contre Serena Williams, là, elle était comme le vent sur le terrain, elle bougeait à une vitesse folle. C'était surprenant de l'avoir joué à un aussi haut niveau. Et en fait, il y a beaucoup de mamans qui ont eu un très, très bon niveau de jeu. Naomi Osaka, elle n'était pas dans nos choix. Nico, te souviens-tu quand on a fait qui est la prochaine grande vedette pour les 10 prochaines années? Nous autres, on avait Bianca, Coco Gauff qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais Naomi Osaka va être là-dedans, assurément.
Bien sûr, mais en fait, elle l'est déjà. Tu sais, déjà trois championnes de Grand Chelem. Je veux dire, oui, c'est le futur, mais c'est aussi énormément le présent du tennis. Ouais. On l'a vu, puis ce que je trouve chouette de Osaka, puis pourquoi cette victoire-là est si importante, peut-être plus que les précédentes, c'est parce qu'en ce moment, Osaka, plus que jamais, s'est imposée en tant que leader mondial dans cette lutte contre le racisme. Et tout au long de la semaine à New York, elle était comme une tête d'attraction, évidemment par son jeu, par son talent, par ce qu'elle a en tant qu'athlète, mais aussi par la manière dont elle s'est portée garante de ce mouvement. On se rappelle, c'est elle, il y a quelques semaines, qui avait pris la décision d'arrêter de jouer pour la cause. Donc, de voir cette championne-là remporter, mais aussi qui s'impose en tant que leader dans cette facette non sportive de la société. Je trouve ça stimulant pour elle et pour le monde du tennis.
On parle beaucoup de rajeunir le tennis en ce moment. Je pense que les deux finales, bon, évidemment, du côté des hommes, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais avec Osaka du côté des femmes, il y avait un vent de fraîcheur cette année pour les bonnes et mauvaises raisons, là, mais ultimement, je pense que le tennis en sort gagnant du US Open cette année et des deux finales qu'on a eues ce week-end.
Et c'est intéressant, tu sais, pour tomber dans ton domaine un peu plus, Hugues, tu sais, que Naomi Osaka soit la joueuse la plus payée, alors que elle n'a pas un charisme naturel, tu sais, au niveau des commanditaires. Tout ça, des fois, c'est beaucoup recherché. Et elle est un peu, comment dire, elle est gênée. C'est pas la fille qui est la plus à l'aise devant les caméras. Même encore à ce jour, tu sais, elle a été hyper médiatique, mais elle a encore un peu un côté awkward, là, si je peux le dire comme ça.
Mais oublie pas que beaucoup de ces grosses commandites viennent de l'Asie Pacifique. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment sur ce secteur-là, au niveau géographique, que ces gros revenus arrivent. Ça va arriver du côté américain assez rapidement. J'en doute pas du tout.
Et la question que je me posais, mais avant que tu continues, Alex, je sais pas ce que vous en pensez, mais en voyant Azarenka, je me demandais vraiment ce qui allait l'arrêter, puis je me demande, est-ce qu'elle est revenue pour de bon? Parce que bon, à 31 ans, peut-être que le meilleur est derrière elle, mais quand même, elle a joué du tennis époustouflant depuis deux tournois. Selon vous, est-ce qu'elle est de retour pour de bon?
Hugues?
Je pense qu'il va falloir valider ça assez vite, mais pour atteindre quand même la finale du US Open, jouer comme elle a joué contre Serena, qui jouait dans sa cour, elle a rien lâché, vous le savez. Moi, je pense qu'elle nous promet encore quelques belles saisons devant elle. Donc, je pense que oui, elle est revenue. C'est un parcours extrêmement long et difficile au US Open, puis elle s'est rendue avec brio jusqu'à la finale.
Ben, les joueuses l'ont dit, les joueuses l'ont dit carrément « she's back ». Je me souviens, il y a quelques années, quand Maria Sharapova était de retour après sa suspension et à la Coupe Rogers, on avait fait une série d'entrevues, puis les joueuses se gênaient même pas pour dire « non, elle n'est pas encore au niveau où elle a déjà été, non, elle n'est pas la Sharapova qu'on connaît ». Et là, les joueuses, elles l'ont dit « oui, elle est de retour ». Et quand on l'a vu jouer effectivement contre Serena et contre tout le reste du tournoi, tu sais, tu peux pas atteindre la finale d'un tournoi Premier et la finale d'un Grand Chelem, puis pas être de retour, tu sais. Puis affronter le match qu'elle a joué contre Naomi Osaka, je veux dire, tu bats pas peut-être la prochaine numéro un mondiale pour les 10 prochaines années, 6-1 si t'es pas de retour, je pense. Alors, belle victoire pour Azarenka. Quel tournoi le US Open a été. Moi, je trouvais que le US Open féminin était plus intéressant a priori. Et pour vrai, le tableau ne nous a pas déçus, absolument pas. On a eu des grands matchs, puis 9 mamans dans le tableau principal, ça a été incroyable.
Et j'y pensais aussi, Osaka doit avoir hâte de remporter un tournoi de manière peut-être plus normale. On se rappelle, il y a 2 ans, Williams qui avait fait un peu sa... qui avait fait à sa tête et qui avait un peu mis de l'ombre sur la victoire Osaka. Et cette année, bon, devant aucun spectateur. Donc, j'imagine que Naomi doit avoir hâte de remporter ça devant, de manière plus régulière, disons.
Ouais, ben ça, c'est sûr que la finale, il y a 2 ans, va passer à l'histoire. Puis celle-ci, il n'y a pas d'autres raisons, mais au moins, il n'y a pas eu de controverse tennis cette année.
Mais tu dis, Alex, je ne sais pas vous ce que vous avez pensé de. Évidemment, c'est pas notre travail de faire ça, mais Azarenka, j'ai senti qu'elle s'était sortie de sa partie un peu lorsque elle a appelé souvent des décisions des juges de ligne qui ont été renversées. Je ne sais pas si ça a pu la sortir de sa partie, mais quand même 6 fois où la balle a été jugée à l'extérieur, elle était à la reprise, elle a remporté sa décision. Donc, je ne sais pas si au fur et à mesure du match, ça peut jouer dans la tête ou casser son rythme, mais en tout cas, sans dire que ça a été une controverse, j'ai trouvé ça dommage que ça, parce que veux pas, ça casse le rythme. Là. Et Azarenka avait un momentum ahurissant.
Ouais, ben, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que, overall, elle a quand même bien joué. Tu sais, c'est difficile parce que tu as quand même une fille qui domine le circuit depuis déjà quelques années. Moi, je pense pas qu'elle s'est sortie de son match, mais je l'ai senti peut-être effectivement. Tu sais, comme contre Serena, on la voyait les yeux fermés, son banc et tout, hyper concentré. Mais je pense qu'elle a plus manqué d'énergie. Tu sais, c'est 2 finales de suite, deux longs parcours. Moi, je pense que c'est plus ça qui a été problématique en fin de match, mais tu sais, elle a pas mal paru. Puis elle a continué de se battre quand même.
C'est certain qu'un grand chelem de 2 semaines, deux finales de suite, c'est très usant côté physique et mental. Donc, il faut s'attendre à ce que ça provoque certaines choses, des fois, durant le match ultime de la finale.
Et moi, j'ai une question pour toi, Hugues, spécifiquement au masque que Naomi elle a porté. Est-ce que ça peut être quelque chose pour des commanditaires qui peut être, comment dire, pointilleux, touché, peut-être d'aller dans ces endroits-là, ou est-ce que c'est un win assurément de faire des choses comme ça? Parce que tu as peut-être... En tout cas, je vais poser la question comme ça. Hein?
Très bonne question, mais moi, je pense que sa marque personnelle, son branding personnel se prête exactement à ça. Donc, un commanditaire qui s'associe à elle veut ça d'elle. Donc, c'est encore une fois, c'est toujours une question de fit entre les valeurs de marque et de la valeur de l'athlète ou de la marque athlète. Et dans ce cas-là, pour moi, ça marche à 100%.
Mais c'est ce que j'allais dire aussi, corrige-moi si je me trompe, c'est ton domaine évidemment, mais j'ai l'impression que vu qu'elle est habillée par Nike qui, depuis quelques années, bon, sur Instagram notamment, défend cette cause-là du racisme, notamment avec Colin Kaepernick, donc j'ai l'impression que le fait qu'elle soit avec Nike a probablement aidé à cette décision-là.
Ils sont sûrement au courant. Évidemment, Nike, depuis des décennies, dans leur ADN de marque, ce côté un peu rebelle, un peu de bousculer l'ordre établi, fait tout à fait du sens avec la marque. Donc, Nike doit être très content de ça aussi. Et je suis certain qu'ils étaient au courant aussi et qu'elle était pour le faire.
Et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, Naomi Osaka, elle l'a dit pendant le tournoi, je pense que c'était au milieu du tournoi, elle a dit, tu sais, moi, je suis pas une leader naturelle, puis c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Elle a dit, je regardais autour de moi et je pense que je me disais, si personne le fait, ben moi, je vais le faire, puis elle a décidé de le faire, puis je pense que ça prenait des gestes de la sorte, puis c'est elle aussi qui avait mis, si on veut, en arrêt le monde du tennis en disant, moi, je m'en fous de perdre mon match, faites-moi le perdre à Cincinnati. Oui. Alors, c'est intéressant de voir, tu sais, une fille qui n'est pas une leader naturelle, mais qui va au-delà de sa, je dirais, personnalité naturelle pour dire, ben regarde, il faut faire quelque chose, il faut le faire, et ça, je pense que c'est un beau message que ça envoie, au-delà du message lui-même.
Oui. C'est des gestes extrêmement forts puis qui parlent très bien à une génération 18-34 qui se retrouve tout à fait dans ce type de message-là. Peut-être que la génération un peu plus vieillissante du tennis qui est le core fan encore, on sait que le fan moyen a 61 ans encore. Hein, quand on parlait de l'Ultimate Tennis Challenge avec Showdown avec Mouratoglou, c'était ça qui l'attaquait un peu. Alors quand Osaka fait ces gestes-là, ça parle d'une génération 18-34 qu'on veut amener dans le tennis en ce moment, donc ça marche pour moi, c'est super.
Et chez les hommes, messieurs, quel match! Quel match! Nico, as-tu passé 5 heures devant ta télé?
Ben, il fallait avec une finale comme ça, Team Zverev, qui, tu sais, je veux dire, c'est une finale qu'on risque de revoir là, avant longtemps en Grand Chelem, donc c'est un prélude à probablement plusieurs rencontres, comme ça aurait pu être le cas avec Zverev, Tsitsipas notamment, mais c'est sûr qu'une finale comme ça, ça entre dans l'histoire. Un 5-7 qui se finit en tie-break, qu'est-ce que tu veux de plus? Honnêtement, dans le contexte actuel, on attendait ce US Open avec tellement... on était tellement heureux que ça arrive enfin, après tout ce qui s'est passé, et d'avoir une finale comme ça qui s'étire et qui, mine de rien, les deux joueurs étaient encore en top qualité, même à la fin du match. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Ouais, c'est ça. Vas-y. Non, j'allais dire que Tim, je regardais les stats extrêmement limitées dans cette stratosphère de Djokovic, Federer et Nadal. Et on peut mettre Andy Murray. J'aime bien parler du Big Four pour l'inclure quand même, bien qu'il est très loin des trois autres. Mais il rentre dans seulement quatre joueurs hors du Big Four qui ont gagné des grands chelems avec Wawrinka, Cilic, Del Potro. Donc, c'est un cercle extrêmement fermé. Et je pense qu'il y a un changement de génération là, qui vraiment s'opère de façon officielle là, avec Zverev qui arrive, avec Team, avec Tsitsipas. Et évidemment, je mets Ojeda Aliassime et Chapeau Valov dans l'eau. Là. Donc, on y arrive. Ce que je retiens de la finale aussi, évidemment, c'est cette montagne russe d'émotions et de tensions de match qui s'est joué comme en deux temps, plus les crampes de Tim en fin de match. Zverev qui savait quoi faire, mais il n'a pas réussi à le faire. C'était fascinant de voir la conclusion du match. Donc, belle et grande finale, mais je ne suis pas certain qu'un Federer ou Nadal ou Djokovic aurait craqué un peu comme Zverev a craqué à la fin. Donc là, on voit qu'il y a de l'expérience à aller chercher encore, mais ça a fait une finale complètement fascinante. Donc, super.
Et même Tim, à la fin, lui-même l'a avoué, j'avais de la misère à contrôler mes nerfs. Il était hyper tendu, en plus d'avoir des crampes. C'est drôle parce que c'est vrai, on avait vraiment une espèce de fin de match un peu chaotique, là, avec Zverev qui était plus capable de rentrer un service, une première balle. Tu dis, il sort pour le championnat, puis il est juste pas capable de mettre dans le carré. Je pense que j'aurais pu lui donner un coup de main au service, puis cher par en dessous. Ça vous donne une idée? Puis Dominic Thiem qui lui aussi servi pour le match, n'a pas été capable. Quelle fin de match spectaculaire quand même, avec beaucoup de drames, drames dans le sens positif du terme là. Alors tu disais, tu sais, il y a juste Wawrinka, Del Potro, etc. qui ont gagné. C'est un petit nombre à part Djokovic, Murray.
Sur les joueurs actifs, on s'entend. Sur les joueurs actifs encore en ce moment.
Exact. Mais là, je pense que la bulle, elle est ouverte. La nouvelle génération, elle est arrivée. Tu sais, Zverev est un finaliste de Grand Chelem maintenant. Et tu as des gars comme Félix qui l'ont déjà battu. Tu sais, alors, ça en dit long sur l'avenir que peut avoir Félix. On peut certainement, à partir de maintenant, le considérer comme un potentiel finaliste de Grand Chelem. Il a battu Zverev qui est en finale. Et Dominic Thiem, ben, ça fait déjà un petit bout qu'on l'attend. Et la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il est encore meilleur sur terre battue.
Oui.
C'est le dauphin à Rafael Nadal sur terre battue. Alors, moi, je vous le dis d'avance, les gars, prenez ça en note. Là. Il est champion de Roland-Garros cette année.
Mais j'ai hâte de voir la suite pour Zverev. C'est ce qui m'excite le plus, de voir est-ce que ce 2-7-là qu'il a échappé et qu'il aurait dû, entre nous, l'emporter. Je me demande à quel point ça va lui trotter dans la tête pour sa prochaine finale.
Oui, mais il y en a d'autres que c'est arrivé. T'sais, on a vu les Agassi et tout ça perdre trois finales de Grand Chelem
Il était à lui, ce match-là. Oui. Fait que je me demande à quel point ça va lui trotter dans la tête. Si jamais il faut qu'il se rende en finale à Roland-Garros, là, surtout que le tournoi est tellement presque passé que c'est comme si c'était demain.
Ouais. Moi, je pense qu'il faut le voir à l'inverse parce qu'il est encore très jeune, Zverev, et je pense que c'est beaucoup plus un résultat positif. Oui, le match en lui-même est difficile. C'est une dure défaite, mais atteindre une finale de Grand Chelem à la début vingtaine, c'est un résultat exceptionnel. Tu sais. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Je ne sais pas si lui, assis chez eux présentement, c'est comme ça qu'il le voit, mais dans 20 ans, je pense qu'il va regarder ça et dire « Wow, c'est exceptionnel ».
En fait, il a vécu la situation. Il saura comment composer avec la prochaine fois. Je pense qu'il a le talent pour gagner. Je pense que ça va être formateur pour lui. C'est difficile, là, mais formateur, ce qu'il a vécu hier. Puis, n'oubliez pas un certain Ivan Lendl, qui était connu comme le gars qui perd les finales jusqu'à temps qu'il batte McEnroe en 84 à Roland-Garros dans un match complètement invraisemblable. Donc, Zverev va être là très bientôt, j'en ai aucun doute, au plus haut niveau.
Et juste pour ajouter, Alex, là, toi, t'es sans dire un habitué, mais t'as été souvent à Flushing Meadows pour le US Open. Hier, lors du tie-break, je me disais, j'aimerais tellement ça entendre l'ambiance de ce stade-là en tie-break dans ce match. Hyper, vous l'avez dit, dramatique, tendu. L'ambiance aurait été absolument phénoménale.
Tout à fait.
Juste pour ça, dans le tournoi, ça ne m'a pas manqué plus qu'il faut, honnêtement, mais dans ce moment précis-là, j'aurais aimé vraiment entendre la foule puis l'ambiance à New York.
Ah non, mais tu dis ça, mais je sais pas si tu as remarqué à la fin de la rencontre, il y avait des applaudissements comme dans un petit tournoi, là. Il commençait à avoir beaucoup de monde dans les gradins. Il y avait peut-être une centaine de personnes. C'était sûr que c'était espacé, mais après les points, on entendait des applaudissements. Je dis, oh, on commence à revoir du tennis comme on est habitué.
Ouais, c'est un peu surréel, effectivement, ces applaudissements qu'on entendait bien, qui n'étaient pas les fameux applaudissements en canne, mais effectivement, Nico, tu as raison, dans un stade de Arthur Ashe plein avec 21 000 personnes, ça aurait été complètement électrique, là. Donc, prochaine fois.
Ouais, ben, en tout cas, on l'espère le retour à la normale pour la saison prochaine, puis que je puisse aller faire mon tour au US Open parce que c'est tellement un beau tournoi. Je sais pas, Nico, si t'es déjà allé. Je pense que t'es jamais
non,
allé.
Non, je suis jamais allé, non.
T'as une chance. Je t'invite l'année prochaine, tu viendras faire un tour avec nous. Et toi, tu es déjà allé faire un tour au US Open?
Plusieurs fois. Et c'est tellement un stade gigantesque. La première année, c'était en construction. Donc, c'était encore sur l'ancien central. Et je regardais et je savais pas c'était quoi la structure qui construisait à côté, tellement stéréo. Je me dis, ben, c'est un building, c'est un gratte-ciel. Et l'année d'après, ben, j'ai bien compris que c'était le nouveau central. Et j'ai été m'asseoir dans la dernière rangée pour voir le feeling un peu dans le stade. On ne voit pas la balle, OK? Dans la dernière rangée, tu ne vois pas la balle. Donc, tu es dans l'ambiance, tu es là. Puis, je dirais que même les loges du premier balcon sont aussi hautes que la dernière rangée du stade IGA à Montréal, pour donner une petite référence. Mais c'est vraiment fabuleux comme ambiance. Surtout, évidemment, les matchs de soir, c'est fantastique.
Mais ça doit être plaisant d'y aller. Dans le fond, Alex, tu me diras l'an prochain, puis on ira dans ton penthouse sur Times Square, puis on se trouve.
Hôtel à Primoduc. Oui, voilà. Non, c'est pas si mal. L'année passée, j'ai eu un méchant bel hôtel dans Manhattan, en fait, au coin de Times Square pour à peine, je pense que c'était moins de 200, c'était à peu près 200 $ la nuit, ce qui était très, très, très raisonnable. Mais on s'éloigne de notre sujet. Quel tournoi incroyable. Et ben, il y en a une autre qui a eu un tournoi tout aussi incroyable, loin des terres américaines, cela dit. Mais est-ce qu'on peut parler d'Eugénie Bouchard? Là, je te permets de le dire, là. Nico, vas-y. Vas-y.
Ben, elle est de retour.
She's back.
Elle est de retour, ma foi du bon Dieu. Mais Alex, avant de commencer, je ne veux pas nous mettre sur un piédestal parce qu'il faut rester humble. Mais si on pense au balado, on a quand même mis sur la map Brenda Fruvirtova. Ça,
c'est notre premier. Grâce à nous.
Oui. Puis, depuis qu'on fait le podcast, Eugénie va bien.
Exact.
Tu sais, je veux pas nous vanter plus qu'il faut. Il faut rester humble, mais je souligne ça.
Et c'est une question de temps, là, parce que j'ai pas eu le temps, mais j'avais dans l'idée de sortir notre clip qu'on disait peut-être qu'on devrait lui donner un wildcard pour Roland Garros.
Ben, il y avait pas le choix. J'ai hâte d'entendre Hugues là-dessus parce que nous, je veux dire, sans dire qu'on est des fans d'Eugénie, on y croyait, là, du moins, je parle pour moi, mais Alex aussi, on y croyait avec ce qu'elle nous offrait depuis le retour de la pandémie. Mais ouais. Quel tournoi! Je te dis, ça m'a excité plus que la finale du US Open. Pas de farce.
Ben là, Nico!
Je te le dis. J'étais devant mon écran avec mon père, on capotait. Parce que faut que tu repenses. Oui, c'est sûr que ça n'a pas la même envergure et le même prestige, mais d'avoir Eugénie dans une finale à être combative, agressive, en confiance, on dirait que ça faisait 1000 ans qu'on n'avait pas vu ça. Puis j'étais fébrile devant mon écran. C'est une finale sans. Ça ne passera pas à l'histoire, évidemment. Mais lorsqu'on regarde le passé d'Eugénie et ce qu'elle a offert cette semaine, parce que toute la semaine, elle est sublime, là, ça me renverse. Quel match!
Il y a beaucoup de choses à retenir de toute sa semaine. Moi, ça me fait très, très, très plaisir. Je le souligne à grands traits que Eugénie a eu cette performance-là avec ce qu'elle a traversé depuis 2 ans, 3 ans, qu'elle s'est peut-être infligée à elle-même dans une certaine mesure, mais c'est un retour sportif qui n'est pas négligeable. Si on regarde son parcours, elle s'est qualifiée premièrement. N'oubliez pas là, qu'elle a dû passer par les qualifs. C'est pas facile. C'est pas des conditions qui sont évidentes. Elle a quand même éliminé Kuznetsova, qui était la favorite numéro 1. Elle a gagné des matchs en 3-7. Il y a eu toutes les nomenclatures de matchs. Là. Premier set gagné, premier set perdu, 3 matchs en 3-7. Moi, je pense que c'est une performance qui révèle beaucoup de choses positives pour Eugénie, qui peut lui permettre d'espérer beaucoup de choses pour la suite. C'était sur terre battue rouge, il faut pas l'oublier non plus. Donc, son laissez-passer pour Roland Garros qu'elle a eu aujourd'hui semble tout à fait mérité, premièrement. N'oubliez pas qu'elle avait fait la demi-finale de Roland Garros en 2014, qu'elle avait perdu contre Sharapova, qu'elle aurait pu gagner. Elle avait très bien joué ce match-là. J'ai été chanceux d'y être pour ce match-là. Eugénie, attention à Roland Garros. Moi, je serais pas surpris qu'elle nous fasse une belle performance. Je pense que son tennis est là et on revient vers quelque chose de vraiment intéressant. On parlera plus du côté économique un petit peu plus tard, mais au niveau sportif, bravo. Wow.
Ben, tu sais, là, elle est de retour autour de la 170e place mondiale. Elle est 167, là, si je ne me trompe pas. Alors, ouais, 167. Tu sais, on se rapproche dangereusement des tableaux de qualification et de même tableau principal, ouais, là, des tournois du Grand Chelem. Alors, ça, c'est très positif pour aller chercher des points. Et qui sait, peut-être que sera la Canadienne la mieux classée d'ici un an, si Bianca continue d'être blessée. Ouais. Tu sais, je le souhaite pas. Mais tu sais, elle va bien, puis je suis content qu'on parle de Génie pour les bonnes raisons aussi, parce que, ouais, mon Dieu, c'est qu'elle a eu son lot de commentaires négatifs à tort ou à raison, là, je voulais juger, mais il reste que je suis content qu'on parle d'Eugénie pour les bonnes raisons et surtout pour ses performances sur le terrain. Et comme tu l'as dit, Hugues, c'est pas banal la victoire contre Kuznetsova. Non, c'est plus la joueuse qu'elle était il y a quelques années, mais c'est quand même une fille qui est encore 38e mondiale, qui a été championne de Grand Chelem. Ouais. Elle a gagné Roland-Garros, d'ailleurs, si je me trompe pas. Tu sais, c'est pas... C'est pas banal comme victoire.
Oui, très révélateur. C'est pas un feu de paille. Elle a eu des victoires ici et là. Je me rappelle contre Sharapova il y a 2 ans. On dirait que quand il y avait un enjeu médiatique, s'il y avait un gros spotlight sur le match, tout d'un coup, elle performait. Mais là, c'est un tournoi bon, de 3e série. C'est quand même au niveau international. C'est quand même un gros tournoi. Là, c'est comme un ATP 500 pour les hommes. C'est pas un peu un Premier 5 ou un Premier. C'est juste la série en dessous. Mais c'est quand même un tournoi où il y a des filles qui sont bien classées. Puis moi, j'ai toujours dit, elle doit passer par des tournois où elle va jouer à des filles en 100, 150, un peu en haut du niveau challenger, là, tout juste en haut. Pour se refaire les dents. Et là, c'était un tableau parfait pour prouver des choses. Elle a joué contre des filles plus jeunes, différents styles de jeu aussi. Encore une fois, c'est vraiment étonnant dans le bon sens ce qu'on a vu cette semaine. Puis tous les espoirs sont permis pour le reste. Donc, je ne pense pas que c'est un feu de paille. Je me commets là-dessus aussi. Je ne dis pas qu'elle gagne Roland-Garros, mais ce n'est pas un feu de paille ce qu'on a vu cette semaine.
Et dans cette finale-là, Alex, si tu me le permets, il y a 3 éléments que j'ai envie de soulever, puis vous me direz ce que vous en pensez. Messieurs, d'abord, je trouve que la manière dont elle a disputé la finale, là, parce que je pense que c'est ce que les gens se souviendront le plus, c'est qu'elle jouait exactement ce qui l'a fait gagner en 2014. Elle était agressive, explosive, prenait la balle tout dans le rebond. Donc, tous ces éléments mis ensemble, c'est ce qui a fait son succès en 2014. Et elle l'a répété enfin ce week-end. L'autre chose, c'est que les éléments qui lui faisaient mal au cours des dernières années, c'était sa constance, sa confiance et, son difficile, et sa difficulté de combler les retards. Et là, elle est parvenue pratiquement à faire les 3, parce que si on se demande quelle est la différence entre la Eugénie 2.0, si vous le voulez, et celle qui était là auparavant, c'est que Eugénie a sauvé 7 balles de championnat. Et je ne suis pas sûr que la Eugénie d'il y a quelques semaines, la Eugénie d'avant pandémie, aurait été capable de sauver ces 7 balles de championnat. Donc, je l'ai dit, constance, confiance, caractère, ces éléments-là jumelés ensemble, vous le dites, à Roland-Garros, attention, là, attention.
Oui. Et je me corrige en cas de Kuznetsova, elle n'est pas championne de Roland-Garros, championne du US Open, mais finaliste à Roland-Garros quand même. Alors, exactement, battre une fille qui a fait la finale à Roland-Garros sur terre battue, c'est jamais banal. Et le nombre de victoires aussi, tu sais, le fait qu'elle s'est qualifiée et que, bon, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'éléments positifs pour Eugénie, puis ça se traduit par un Walker de Roland-Garros, puis c'est au-delà de la prestance du nom, c'est tout simplement bien mérité.
Oui. Et elle a quand même réussi à garder son calme pendant l'appel à la prière à Istanbul. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu ce moment en plein bal de championnat, les cloches qui se mettent à sonner dans la ville, Istanbul qui se met à vibrer. C'était quand même assez comique.
Il faudrait faire un top 5 des moments cocasses éventuellement. On te mettra là-dessus, Nico, oui, avec ton top 5 des moments cocasses. Et tu crois aussi ton top 5 de Vachek Pospisil.
Vachek sera mon premier, évidemment. Là.
Oui, exact. Tu trouveras le moyen de trouver un moment cocasse à Vachek. Les gars, après l'US Open et Eugénie, ben là, déjà, le monde du tennis, ça va à une vitesse complètement folle. Il n'y en a pas de repos. C'est à mon avis le sport qui est le plus exigeant en termes de voyagement. Oui. Puis, tout roule à une vitesse complètement folle. On est déjà, le tournoi suivant est déjà commencé. On s'en va à Rome. Il y avait des Canadiens en action. Félix a perdu ce matin, mais il y a quand même d'autres Canadiens. As-tu jeté un œil sur le match de Félix, Nico?
Oui, ben Félix, j'ai vu seulement le résultat là, parce qu'à 5 heures ce matin, j'étais dans les bras de Morphée, mais quand même, il demeure que bon, une courte défaite, mais quand même, je pense que pour Félix, c'est, tu sais, ce genre de défaite-là, ça fait partie de son parcours. Je pense pas qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'il gagne tous les tournois. Bon, là, c'est une erreur de parcours, meilleure chance la prochaine fois, mais pour Félix, c'est ça le développement. C'est ce qui fait la force des joueurs, des jeunes joueurs, c'est de l'expérience. C'est des fois de tomber comme ça, mais de se relever le prochain tournoi. Là, on regarde évidemment Chapeau, Miloche aussi qui vont jouer au courant des prochaines heures, prochains jours. Donc, je pense qu'on va mettre le focus là-dessus. Félix, tournoi oublié, mais il pourra se reprendre dans les prochains tournois, j'en suis pas inquiet.
Oui, et quand même une courte transition entre la surface dure et la température rouge aussi. Bon, il y en a qui réussissent à le faire, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à s'adapter assez rapidement. Je pense que ça va aller beaucoup mieux dans les prochaines semaines.
Ouais, et Krajinovic non plus, faut pas le voir comme si c'était un adversaire facile, là. C'est un gars qui a battu Dominic Thiem à Cincinnati, le champion du US Open, et c'est un gars qui a fait le troisième tour au US Open, puis il a fait les quarts de finale à Cincinnati. Alors, tu sais, c'est plate parce que c'est peut-être plus une question de tirage au sort que nuit à Félix, parce que t'as un adversaire qui est de loin supérieur peut-être à d'autres adversaires de premier tour sur lesquels tu pourrais frapper dans un tournoi de genre. Là.
Ouais, mais il y a aucun Masters 1000 de facile.
Ben non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais tu peux quand même espérer peut-être un match de premier tour plus simple qu'un gars qui a battu Dominic Thiem il y a 2 semaines.
Tout à fait.
Et les gars, il y a aussi Chapovalov et Milos Raonic qui sont dans ce tournoi-là. On va jeter un petit coup d'œil au tableau de nos deux Canadiens.
Même Milos, continuer sur sa lancée parce qu'il est tellement bien parti depuis le retour de la pandémie. Ce serait plaisant là, qu'à l'aube de Roland-Garros, qui connaisse de bons résultats parce que veut pas, tu sais, t'en as parlé à Alex, on parle souvent de Félix, de Chapeau, mais Miloche, il ne faut pas l'oublier parce qu'il peut être encore dominant. Là.
Ben oui, il peut être encore dominant, puis il l'a prouvé à Cincinnati. Ça n'a pas été si bien au US Open. Ben en fait, c'est contre Vachek et contre un joueur que tu connais tellement bien, c'est pas toujours évident. Mais garde, c'est partie remise peut-être. C'est sûr que la terre battue, c'est pas nécessairement la
surface de prédilection
pour des gros serveurs, ouais. C'est plus surface dure ou gazon, mais on verra. C'est en même temps, je dis ça, et Milos a toujours bien fait Roland Garros. C'est ça qui est intéressant. Les gars, je regarde le tableau ici. Et c'est pas nécessairement si simple que ça pour nos Canadiens. Chapeau affronte un Argentin Pellant. Et ça pourrait être au deuxième tour s'il fallait qu'il gagne pour affronter Sam Querrey. Alors déjà, ce serait pas nécessairement évident. Là. Mais quand même, de la façon dont Chapovalov joue, je pense qu'on peut quand même espérer un résultat intéressant.
Et pour ce qui est de Milos. Il y a des gros noms aussi. Là. C'est une méchante préparation là, pour Roland Garros. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un petit tournoi à prendre à la légère. Là. C'est une hyper bonne préparation avec tous les noms qu'il y a là. Là.
Non, exact. Et puis Milos non plus, ce n'est pas nécessairement facile. C'est Manarino au premier tour. Alors, un autre Canadien qui a vraiment un tour difficile. Et Milos Raonic, on le voit, il est dans la partie de tableau de Rafael Nadal. Nadal qui affronte Carreno Busta au deuxième tour. Il ne doit pas la trouver drôle lui non plus. Alors... Non, exact. C'est pas surtout si t'es en manque de match. Alors, c'est peut-être un match intéressant à suivre pour les amateurs de tennis Nadal. Enfin, on va suivre nos Canadiens, Milos Raonic et Chapovalov. Prédiction, est-ce que Milos va l'emporter face à Manarino, Nico?
Ben, on espère que oui, parce que comme je dis, il est tellement sur une belle lancée que je ne verrais pas comment il pourrait s'effondrer contre Manarino. Donc, je lui prédis une victoire aisée même, mais... C'est par, comme tu l'as dit, c'est après que ça se corse. Il restera à voir comment il va se comporter contre le Français. Mais non, il va passer le premier tour.
Hugues, est-ce que...
C'est une certitude, mais c'est une prédiction.
Hugues, est-ce que Chapovalov va passer Pellant?
Ça va être compliqué. Il rentre tout de suite contre un spécialiste de terre battue qui s'entraînait sur terre battue sûrement depuis plusieurs semaines. Donc, c'est peut-être là que je donnerai un petit edge à Pellant, même si Chapeau est sur écoute. Encore une fois, US Open, il a poussé le champion dans ses derniers retranchements. Faut pas l'oublier, là, contre Thiem. Ça a été un super match qui aurait pu gagner aussi. Donc, mais ça va être difficile pour Chapeau. Donc, je mets pas mon 5 sur Chapeau, là. Chapeau Valeur.
D'accord avec toi, c'est très, très, très prudent pour ça. Alors, intéressant, on reviendra sur le tournoi de Rome. On ne fera pas de prédiction. De toute façon, vous allez, les gens qui nous écoutent depuis le début vont remarquer qu'on n'a pas sorti nos tableaux. Hein? Il n'y avait rien à se vanter de nos tableaux de prédiction, Nicolas.
Avec raison.
On se reprendra Roland Garros et on invitera peut-être les gens à faire des tableaux avec nous là, quand éventuellement on va créer des pages médias sociaux exclusives là, pour le podcast. Ça va être à faire dans les prochaines semaines.
Rapidement, Alex, là, puis je reviens à ce que tu disais tantôt, ça vient de me sonner une cloche. Tu as dit que Team partait favori pour Roland Garros.
Oui.
Tu prévois Team sur Nadal?
Mais ça dépend de où il va être placé dans le tableau. Parce qu'il pourrait s'affronter avant la finale, là, dépendant des classements, là, quand ils vont sortir le. Mais dans la situation où on avait un match team contre Nadal, je pense que je favoriserais team. Tu me le rappelleras si jamais je l'ai pas placé dans le tableau.
Parce que c'est dur de gager contre Nadal à Roland Garros, comme c'est dur de gager contre Roger à Wimbledon.
Ouais, ben c'est plus facile de gager contre Federer, je pense, à ce moment-ci à Wimbledon que contre Nadal à Roland-Garros, mais il reste que Nadal a presque pas joué. Il a pas joué, dans le fond, depuis le retour. Là, t'as Tim qui va arriver avec une confiance grosse de même parce qu'il est encore meilleur sur terre battue qu'il l'est sur dur. Il vient de gagner l'US Open. Bon, tu vas me dire, il l'a gagné sans Djokovic, mais je pense que la façon dont Zverev va jouer, il aurait peut-être pas nécessairement battu Djokovic. Là. Alors, il aurait peut-être pas nécessairement battu Zverev. Alors, je pense que c'est difficile de gager contre Nadal à Roland-Garros, mais je pense que dans le contexte actuel, la nouvelle génération, elle est arrivée. Et même si j'ai une nouvelle génération, Tim, il a 27 ans, là, il est peut-être le doyen de cette nouvelle génération-là. Mais puis c'est un finaliste déjà à Roland-Garros. Je pense qu'il est rendu là, il est rendu à être champion de ce tournoi-là. Ça fait longtemps qu'on le voit comme le dauphin de Raphaël.
Oui. Tim arrive à son plein potentiel et le US Open va lui donner une dose d'énergie et de confiance énorme. On ne peut jamais miser contre Nadal à Roland-Garros, mais je pense que c'est le moment pour Tim aussi d'être favori à Roland-Garros et je miserai sur Tim aussi pour Roland-Garros. Ça va être son année.
Je prends des notes pour ma prédiction.
Mais toi tu mettons, là, je te demandais de faire ta prédiction là, Nico, tu irais avec Nadal quand même?
C'est parce que je ne peux pas aller contre Nadal à Roland-Garros. Oui, parce que Tim, évidemment, vos arguments sont hyper logiques, puis je ne peux qu'être d'accord, mais tu sais, Nadal, c'est chez lui. C'est comme gager contre Brady au Super Bowl ou Tiger Woods au Masters. C'est dur d'y aller contre ça. J'ai hâte de voir, comme tu dis, le tableau sera vraiment intéressant à regarder. Là. Mais à prime abord, comme ça, je ne peux pas gager contre Nadal.
12 Roland-Garros, c'est le record absolu. C'est ce qu'on disait de Borg à l'époque avec ses 6. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Oui, je suis complètement d'accord. J'aimerais avoir un nouveau gagnant. Puis Team serait un héritier, vous l'avez dit, parfait pour Nadal. Surtout, ce serait un scénario de rêve pour lui, US Open et Roland-Garros.
Oui.
Passons à la partie plus chiffres, plus économie, parce qu'on a un expert avec nous, un expert du marketing, expert des chiffres. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné en intro, Hugues, mais tu fais aussi des chroniques au 91.9 pour parler un peu de l'économie du sport assez régulièrement, si je ne me trompe pas, là.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet qui me fascine. Moi, quand on mêle les sujets économie, marketing et sport, c'est vraiment ma passion. Donc, c'est ce qui m'a amené à être plus dans ce registre-là depuis quelques années. Je suis passé du marketing de produits de grande consommation à du marketing plus sportif, notamment quand j'étais directeur général à TVA Sport et avec l'impact après comme vice-président marketing. Donc, c'est le territoire qui me passionne le plus. Donc, oui, j'aime bien regarder cette économie du sport qui est en pleine transition en ce moment, là, tant au niveau de la diffusion que des licences, que des plateformes, évidemment. Et on sent un grand changement qui nous affecte directement aussi au Québec, là, avec une industrie qui était très en place depuis plusieurs années, mais il y a des changements qui s'opèrent en ce moment.
Alors, nous, on te l'annonce officiellement en direct, Hugues. On va te laisser gérer nos droits du podcast sur la ligne, mais on ne prend pas en bas $1 million par épisode.
Non, moi, je signe pas ça.
On va trouver une façon de faire suffisamment de revenus pour aller à ce niveau-là de rémunération.
Ça fait 2 millions,
Nico. 2 millions. Ben, Alex, j'y allais d'une question. Tu voulais y aller, mais quand Alex m'a dit que tu étais à l'émission, puis bon, en lisant ta bio, il y a une question qui m'est immédiatement venue en tête, puis je vais te la poser en tant qu'expert. Peut-être que c'est une question, pas non-non, parce qu'il n'y a pas de question non-non, mais quand même, tu sais, on est peut-être biaisé parce qu'on fait un balado de tennis, on est des amateurs, mais est-ce que le tennis est dans la catégorie des sports qui sont difficiles à vendre ou qui sont faciles à vendre?
Ah, OK, il y a une réponse en deux temps. Je vais partir du local parce qu'au Québec, on aime beaucoup le tennis. Ouais. C'est un sport qui est très regardé. C'est après le hockey et le football de la CFL, NFL, c'est le tennis qui a les meilleurs codes d'écoute. Donc, ça déjà, c'est pas partout qu'on retrouve ça. Il faut donner crédit. Bon, c'est le podcast de la Coupe Rogers, mais je vais lancer des fleurs à Eugène Lapierre, à Richard Legendre avant, qui ont monté cette propriété-là, qui est un des plus beaux événements sportifs / social, je dirais, au Québec. Ça va plus loin que le tennis, ce que la Coupe Rogers a réussi à faire au fil des années. Il y a un engouement énorme pour le tennis au Québec, comme sport spectacle, comme sport de loisir aussi. Il y a des gens qui jouent et de plus en plus, mais c'est un sport qui se vend bien au Québec. Et là, je le mentionne vraiment au niveau Québec. Bon, évidemment, la Coupe Rogers est toujours scindée entre Toronto et Montréal avec l'alternance, mais c'est parce que le Québec fait très bien en termes de foule et de revenus. Vous le savez, c'est record après record, donc on peut vraiment être très fiers de ça. Donc, c'est une vente qui est somme toute assez facile, je dirais, au Québec, mais il faut augmenter les revenus encore, il faut rajeunir la clientèle, c'est là où est le gros défi en ce moment. Comment on va toucher des 18-34 qui sont les jeunes adultes qui commencent à avoir un revenu disponible pour aller voir du sport, pour acheter du sport, pour souscrire à un réseau style OTT pour avoir du streaming. Donc là, c'est intéressant. Et comment on s'assure que la fanbase aussi de jeunes joueurs qui commencent, qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, commence aujourd'hui avec les belles performances de Bianca, Chapeau, Félix et autres. Donc tout ça au Québec, c'est bien en place. Au niveau mondial, c'est plus compliqué. On voit que l'ITF, les grands chelems, l'ATP se cherchent un peu. La Coupe Davis comme format a été challengée avec la nouvelle formule de l'ATP qu'on a vu en début d'année qui était vraiment, vraiment intéressante. La durée des matchs, ça semble un problème aussi. C'est pour ça que l'Ultimate Tennis Showdown est arrivé avec des matchs qui ne durent pas plus qu'une heure, qui sont divisés en 4 quarts, comme au basket, by the way, qui touche bien les 18-34, avec une formule qui se rapproche autant du jeu vidéo que du tennis, qui mise sur les forces du sport et des joueurs, évidemment. Mais il y a un défi de mise en marché au niveau global, beaucoup plus qu'au Québec, je dirais, en ce moment. Je pense qu'au Québec, c'est les bonnes choses sont faites, que le marché est preneur. Et on vit un âge, comme vous le savez, c'est l'âge d'or du tennis en ce moment avec tous les joueurs qui performent. Donc, on a accès à une situation presque parfaite au Québec, mais un vrai défi au niveau mondial.
Est-ce que dans le fond, on est au début d'une certaine vague avec Félix, Bianca, Léla, même que je vais inclure là-dedans. Est-ce qu'on voit le tennis peut-être à moyen terme devenir peut-être plus gros que le football et la NFL? Est-ce que c'est rattrapable en termes de cote d'écoute, en termes de notoriété télévisuelle peut-être?
Il y a un long chemin à franchir encore. Oublie pas qu'on bénéficie de l'effet Laurent du Vernet Tardif qui vient aider aussi l'intérêt du grand public sur la NFL qui déborde maintenant les hardcore fans de la NFL. La CFL, je dirais, par contre, est plus fait face à des gros défis en ce moment. Ça reste une ligue régionale, il faut pas l'oublier, c'est une ligue canadienne, mais qui a des fortes racines, dont à Montréal avec les Alouettes évidemment. Mais c'est un produit qui est plus difficile à marketer dans le mode 2020 en termes de portée, fréquence, quel type de clientèle on rejoint, c'est moins évident. Donc, mais je pense que le soccer, que le tennis a quand même un beaucoup de chemin à faire avant de rejoindre la NFL, mais peut sûrement augmenter son fanbase et les monétiser encore plus qu'il le fait en ce moment. Donc, encore une fois, d'où des produits comme l'Ultimate Tennis Showdown. Je pense que l'analyse de la situation de Mouratoglou était extrêmement juste. Je pense qu'il fait pour les bonnes raisons. Est-ce que les moyens sont les bons qu'il met en place? Je pense que c'est un super laboratoire qu'ils ont fait avec l'Ultimate Tennis Showdown. Et on verra ce qui en ressort, mais le tennis à l'échelle mondiale doit regarder ce qui se passe de ce côté-là pour apprendre et surtout recruter une nouvelle clientèle qui est difficile à recruter en ce moment. Les 18-34, en termes d'habitude d'écoute, ne viennent pas au tennis spontanément.
Et moi, j'ai une question peut-être, ça va être vraiment, vraiment précis, mais comment est-ce qu'on passe d'un événement comme la Coupe Rogers, qui est mainstream, qui va chercher une population plus large que le fan de tennis, mais comment tu passes d'un événement d'une semaine pour garder le monde à l'année longue? C'est quoi la stratégie pour passer d'un événement à une année de tennis pour l'amateur moyen.
Un des éléments tactiques, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, on a un podcast hebdomadaire, donc qui est là toute l'année, qui permet d'engager un dialogue avec les fans, d'amener de l'information un peu plus en profondeur que seulement les pics qu'on va avoir durant les grands moments du tennis. Donc, il faut que le dialogue soit engagé de façon régulière avec les fans. Le podcast, c'est une façon de le faire. Les réseaux sociaux, il faut les activer au maximum. Il y a des façons, vous le savez, on est dans une situation où on doit suivre les données, on doit comprendre à qui on parle et engager les gens au bon moment. Et disons que les points de contact sur l'année, tant au niveau de la Coupe Rogers que de Tennis Québec, qui a une fanbase incroyable. Hein. C'est la troisième plus grosse fédération au Québec en termes de licenciés, oublions pas ça. C'est 35 000 licenciés le tennis au Québec. Mais ces gens-là ne demandent qu'à être engagés avec du bon contenu. Donc, il faut du contenu sur une base régulière et bâtir là-dessus pour mieux comprendre ses fans, les monétiser et faire grossir cette base-là.
Et lorsqu'on s'attarde à la nouvelle génération, bon, Alex les a nommés Bianca, Félix, Denis, à quel point on a besoin de les vendre? Parce que est-ce que les résultats parlent assez d'eux-mêmes?
C'est pour moi?
Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les vendre? Ou lorsqu'on regarde les résultats, ça pourrait être suffisant? Bon. Bianca qui gagne un US Open,
oui.
Etc.
Oui, je parlais avec Hubert Figa de cette question-là justement il y a quelques mois et on s'entend que le meilleur marketing, c'est des grandes victoires. Mm-hmm. Beau faire la meilleure campagne de publicité, la meilleure campagne d'engagement, le meilleur podcast, peu importe ce que tu fais comme contenu, si tu as un champion que tu peux émuler, il n'y a rien de mieux au marketing. Hein. Tous les Suédois voulaient devenir Björn Borg, tous les Américains voulaient être Jimmy Connors ou John McEnroe, les Allemands voulaient être Boris Becker. Donc, c'est des catalyseurs de nouveaux talents et de croissance. Donc, les réussites de Chapovalov, de Félix, des filles, des gars, c'est fabuleux. Donc, ça touche tout le monde en ce moment. Donc, c'est le meilleur moteur. Mais après, il faut bâtir sur ces résultats-là. Il faut surfer sur les succès qu'on voit semaine après semaine, justement pour engager le fanbase et le public mainstream. Puis encore une fois, on est dans un contexte de marché où le hockey domine pour toutes les bonnes raisons aussi. Je suis fan de hockey, hein, mais il faut donner du contenu qui est assez engageant, assez excitant sur une base régulière avec de la fréquence pour que le fanbase soit là et grossisse, tout simplement.
Et moi, j'ai une question avant qu'on tombe sur Eugénie. Tu sais, tantôt, on parlait de la longueur du match qui peut être un problème et l'UTS tentait de répondre à ça d'une certaine manière. Mais en même temps, quand on regarde un match comme la finale qu'on a eu, tu sais, 5-7, je vois pas comment tu peux décrocher de ce match-là. Alors, tu sais, à quel point c'est un problème si ça devient un match historique et légendaire d'une certaine manière?
Écoute, je suis pas convaincu de ça, Alex. Moi, je pense que c'est un format qui est difficile à avaler, un match de 5 heures pour beaucoup de gens. Il y a un effort physique de rester éveillé, de suivre ça jusqu'au bout. J'ai vu beaucoup de matchs dans ma vie. Il y en a sur lesquels je me suis endormi, je l'ai regretté. D'autres que j'ai toffé soit sur place, dans le stade ou à télé, j'étais vraiment content. Mais quand on voit que des packages de highlights en termes de licence là, se vendent très, très bien, peut-être aussi bien même, ou même que certaines plateformes médias vont vouloir acheter seulement des plateformes de highlights parce que ça se consomme rapidement. On veut des formats courts, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Quand Mouratoglou revient avec l'UTS, avec un format d'une heure, je comprends pourquoi il le fait. Donc, des matchs de 3, 4, 5, 6 heures, c'est compliqué pour des diffuseurs. C'est compliqué pour les diffuseurs qui ont passé de la pub dedans, premièrement. C'est compliqué de garder l'audience tout le long du match. Si on est un vrai fan de tennis, c'est des moments qu'on chérit, qu'on n'oubliera jamais. Mais c'est un format qui est dur à marketer, très dur à marketer.
Mais est-ce qu'à l'ère du streaming, le problème des diffuseurs, il ne devient pas second d'une certaine manière? Parce que le timing comme tel ne devient plus un problème de cases horaires. C'est-à-dire que si moi, je suis abonné à deux zones, puis qu'il y a un match de 5 heures de tennis, je dis n'importe quoi, là, ou n'importe quel tennis channel, ou peu importe, là, est-ce que comme il n'y a pas de grille horaire comme tel, puis que je peux choisir mon match, et que moi, j'ai fait l'action de choisir ce match-là qui dure 5 heures ou 1 heure et demie, est-ce que d'une manière, ça ne devient pas un problème d'une ancienne génération où il y avait seulement que les télés comme diffuseurs?
Oui, mais n'oublie pas que les licences sont encore vendues à des diffuseurs. Donc, quand NBC présente Roland-Garros, il doit composer avec ça. Puis là, ça a toujours été des gros enjeux. À quelle heure vous commencez le match? Avec le décalage horaire en plus, il faut commencer le match à 9h le matin du côté américain, quand il est 3h du côté français. Il y a eu des gros débats là-dessus. Donc, oui, c'est un problème d'une ancienne génération, sauf que les licences de diffusion valent beaucoup d'argent encore. Donc, elles n'ont pas migré complètement vers l'OTT, vers le streaming encore, vers DAZN, vers Amazon Prime qui achète plein de choses en ce moment. Ce n'est que le début. Et vers les canaux que les ligues utilisent eux-mêmes. Donc, ATP Tennis TV, que vous avez regardé sûrement, c'est la marque média, marque as media de l'ATP. Donc, mais ça, encore une fois, ça va toucher les core fans. Il y a un nombre limité d'abonnements que tu peux prendre. Là. Tu sais, OK, c'est 20$, il n'y a rien là, je le prends, j'aime ça. OK, j'en prends un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc il y a une sélection qui se fait. Donc, mais je pense que le format, bien qu'il va toucher des hardcore fans encore, un format de jeu de 4-5 heures, 3-4 heures, ça peut être un problème. Et des tournois à chaque semaine en plus, presque sur toute l'année. Donc, je pense que le calendrier et le format de jeu doit être un peu repensé encore. Donc, il y a un vrai défi, mais c'est vrai que l'OTT offre plus de flexibilité. Donc, et la mise en marché est vraiment intéressante. Les graphiques sont intéressants. Les sujets qui sont abordés touchent vraiment aux fans de tennis qu'un média sportif de grand public va sûrement toucher un peu moins bien. Donc,
Nico, je suis content d'avoir un expert comme Hugues parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait répondre à ces questions-là. Toi et moi compris, même si on travaille dans le domaine de la télé, c'est vraiment intéressant. Vas-y, je pense que tu veux enchaîner avec une question.
Je ne sais pas si on y allait avec un petit aperçu de Jeannie, ce qu'elle voit encore, mais aujourd'hui, oui. On me demandait avec des amis, ça, évidemment, parce que tu sais, Eugénie, c'est encore une athlète qui attire l'attention, qui attire le Kodak. C'est une fille qui polarise aussi, on en parle. Gagne, perd, on en parle. Oui. Et on se demandait avec des amis, est-ce que Si on limite ça à Tennis Canada, est-ce que c'est encore l'athlète chez Tennis Canada qui est le plus attrayant pour les commanditaires? Parce que veux, veux pas, c'est celle qui a le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est une fille qui paraît encore bien. C'est une fille qui attire les commanditaires. Mais est-ce que c'est elle, encore elle, qui lead chez Tennis Canada pour ça?
Ben, je pense que ça reste l'athlète chez Tennis Canada la plus marketable. Ouais.
Plus que Bianca?
Encore plus que Bianca aujourd'hui. Ouais. Wow. Mais je mets un gros mais sur ça. Il faut que Eugénie ait des performances sur le terrain. On le sait, tout le monde, on a parlé de la référence beaucoup à Anna Kournikova. Ça ressemble tellement à leur parcours. Finaliste rapidement à Wimbledon. Gagnante de Wimbledon Junior, c'est presque un copier-coller, mais Kournikova n'a pas suivi au niveau sportif. Ça s'est amoindri très, très rapidement. Puis elle est devenue une figure un peu people. Elle se marie avec Enrique Iglesias. Bon, c'est une people. Mais je pense que Eugénie, si elle revient avec des performances qui l'amènent dans le top 100, elle fait des grands chelems, les gens voient qu'elle est combative, qu'elle se bat, qu'elle a travaillé sur ce qu'elle devait travailler et qu'elle performe, ça redevient rapidement l'athlète la plus marketable. Oui, même devant Bianca aujourd'hui, pour répondre à ta question.
Mais est-ce que cet attrait-là médiatique peut avoir une date de péremption? C'est médiatique et marketing, évidemment. Est-ce que ça peut avoir une date de péremption?
Oui, comme tout. Mais encore une fois, on parle souvent de storytelling. Si Eugénie, après son ouais. passage à vide, revient, c'est une superbe histoire. Attendez, là, les gens attendent que ça. C'est la star chérie du tennis, Child Prodigy, les grosses commandites très tôt, des demi-finales, des finales, des victoires, des grosses commandites, hein, Nike, Colgate, Aviva, name it, là, elle a eu des très grosses commandites. Elle en a perdu beaucoup, je vais en parler un petit peu. Mais Eugénie, si elle remonte dans un top 100, top 50, et si jamais elle joue contre Bianca et elle gagne le match, ben là, c'est back to the top. Là. Donc, tout est possible pour Eugénie si elle continue sur la voie qu'elle a pris en ce moment. Mais elle repart de loin. Mais moi, je sens qu'il se passe quelque chose en ce moment. Elle est toujours présente sur les réseaux sociaux. Je dirais que la tonalité est un peu plus soft. Je dirais que c'est une bonne chose. On voit qu'elle s'entraîne parce que ses performances montrent qu'elle a évolué au niveau de son jeu, tant au niveau du caractère que du mental qu'au niveau de son jeu, au niveau tactique. Donc, mais Eugénie, oui, je pense que si elle performe comme ça pendant quelques mois, tout d'un coup, tout le monde va aimer Eugénie encore.
Est-ce que dans sa période, sombre. C'est très fort comme terme. Là. Dans sa période où c'était plus difficile de gagner des matchs, disons-le comme ça, est-ce que c'est une fille qui, auprès des commanditaires, valait encore, disons, des commandites dans les 6 ou 7 chiffres? Est-ce que ça valait encore ça? Non.
Non, après ces belles années, là, puis c'est très concentré, là, c'est 2014-2016, OK? Elle signe avec IMG, elle passe à Lagardère après, elle passe à TLA après. Tout ça, ça s'est arrêté en 2018. Et là, les gens ont dit, bon, écoute, il se passe plus rien. Moi, j'ai lu que même son contrat avec Nike est resté avec elle, mais son contrat, il est performance-based. Donc, elle doit pas toucher grand-chose en ce moment via Nike. C'est elle, je pense, elle qui est restée fidèle. Elle aime la marque. Elle est à l'aise avec Nike. Donc, elle joue toujours avec Nike, avec tous les kits qui sont les plus récents, là, visiblement. Elle a eu un contrat nouveau de raquette avec Yonex, qui était quand même une grande marque. Beaucoup de joueurs et joueuses jouent avec Yonex. Excellente raquette. Mais elle avait perdu son contrat avec Babola, donc c'était peut-être pas son premier souhait. Elle a hésité. Il y avait une rumeur qui était pour passer avec Ed. Et finalement, c'est Yonex qui a eu le contrat. Mais tous les autres commandites, depuis 2 ans, c'est pas des grosses marques. Là. On a vu là des suppléments sportifs, New Energy, par exemple. C'est des marques un peu secondaires. Donc, elle a perdu beaucoup durant les années 2018-2020, là, ou même 2016-2020. Mais si elle recommence à performer, il y a des marques qui vont dire, moi, ce genre de comeback-là, je veux associer ma marque avec ça. Elle a montré du caractère, elle a montré une résilience, un mot qui est à la mode en ce moment. Donc, Eugénie, pour un commanditaire, si elle performe, et si son approche avec le marché, comment elle parle aux médias, si ça se passe bien, Eugénie, ça reste une athlète très, très, très marketable. Mais elle est passée du top 10 athlètes les plus payés au monde en 2016. Et là, je ne sais même plus où elle est aujourd'hui, honnêtement.
Tu sais, au Canada, au Québec, Eugénie Bouchard est, bon, disons, connue. Disons qu'on suit l'actualité, on connaît Eugénie Bouchard. T'sais.
C'est une superstar.
Oui, mais tu sais, pour nous, elle a cette visibilité, cette notoriété qui est naturelle. Depuis des années, elle fait partie de notre paysage.
Oui.
Est-ce qu'elle est plus ou moins connue qu'on pense à l'extérieur des frontières?
Bonne question, ça.
Non, elle a été très, très suivie de par le monde. Jenny Bouchard, hein, c'est comme ça qu'elle est connue en dehors du Québec. On l'appelle Eugénie encore seulement ici. N'oubliez pas, elle a été loin à Wimbledon, finale de Wimbledon, demi-finale de Roland-Garros. Elle a eu beaucoup de visibilité. Le Jenny Army en Australie aussi, ça fait le tour du monde, Eugénie. Là. C'est pas un phénomène canadien. Donc, Eugénie, ça peut-être étiolé un peu depuis quelques années, mais il faut qu'une étincelle pour qu'elle revienne au plus haut sommet, selon moi, parce que c'est Eugénie. C'est une jolie fille. C'est une fille qui peut être très combative, qui a un vrai caractère, et je le dis dans le bon sens, il faut ça au sport. Elle pense qu'elle peut gagner, elle pense qu'elle doit gagner, et elle a cette attitude, c'est pour moi, qui peut la ramener très haut, selon moi.
Eugénie, on s'ennuie jamais quand elle joue. Je veux dire, quand tu regardes ses matchs, c'est toujours un spectacle, peu importe ce que c'est. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif, mais la plupart du temps, c'est tout un spectacle qu'elle donne. C'est vraiment une joueuse qui laisse personne indifférent sur le terrain, puis ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine de regarder ses matchs au-delà du fait qu'elle est québécoise canadienne. Et moi, je trouve ça, je suis renversé que tu nous dises qu'elle est plus marketable que Bianca Andreescu, championne du US Open.
Si Bianca, et encore une fois, tu parlais de temps, Nico, si Bianca a encore ses pépins physiques, ses blessures, puis elle rate une saison complète, le tennis, c'est un sport où on oublie très vite. Il y a un nouveau champion, une nouvelle championne qui prend toute la place. Et il se passe tellement de choses au tennis, il y a tellement de joueurs aussi. Tu sais, c'est pas comme il y a 32 équipes ou 16 équipes. Tu as 200 joueurs et joueuses qui sont sur le circuit à chaque semaine, et il y en a qui vont émerger, et c'est ceux qui gagnent, qui ont toute la notoriété. Donc, si Bianca ne revient pas avec des belles performances, et je parle pas nécessairement de gagner un tournoi de Grand Chelem, mais je parle de huitième de finale, quart de finale, demi-finale sur des grandes scènes mondiales, ben dans 6 mois, 8 mois, Bianca, elle sera moins top of mind, comme on dit en marketing.
Puis non seulement ça, je suis en train de regarder, puis c'est pas mon domaine, mais je pense qu'aujourd'hui, Instagram, c'est the name of the game. C'est là, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup qui se jouent là, puis je regarde à l'instant, Bianca sur Instagram, c'est 672 000 abonnés, tandis
2,1 millions pour eux.
2,1 millions, c'est énorme, la différence est absolument ahurissante.
Voilà. Donc, quand tu engages avec 2,1 millions, que tu es suivi par Cristiano Ronaldo, par Neymar, tout ça, c'est un effet d'entraînement, là. Donc Eugénie, oui, en termes de marketabilité, mais couplé de performance, de belles performances sportives, Eugénie peut revenir au plus haut niveau, au même niveau qu'elle était en 2016.
Donc, Nike a fait tout un deal si son contrat est basé sur ses performances, parce qu'elle avait quand même une visibilité sur son compte Instagram, puis qu'elle recevait moins d'argent à cause de ses performances. Nike, eux autres, c'était le deal du siècle pour eux autres avec Eugénie, assurément.
Tout à fait. Ben écoute, encore une fois, si c'est effectivement le cas, que les gros chèques viennent par la performance, c'est eux qui sont gagnants sur le deal en ce moment. Et encore une fois, son caractère, si elle est pugnace, si elle se bat et elle revient, Nike va aimer ça. Et ils vont dérouler le tapis rouge, c'est certain pour elle, avec des lignes qui vont être costumes pour elle, comme ils ont fait pour Sharapova et Serena.
Ouais, ben ça, et même, tu sais, regarde, Azarenka, elle n'avait pas de ligne custom encore. Alors, ça, c'est vraiment. Nike en prennent un, deux, des fois trois, peut-être. Là. Écoute, dans le temps de Nadal et Federer, je pense que c'est les seuls qui avaient des lignes custom. Alors, tu sais, tu avais des gros noms en dessous de ça qui n'avaient pas de ligne custom. Puis chez les femmes, c'était Sharapova et Serena. Puis pour tout le reste, c'était la ligne. Ils faisaient comme une espèce de ligne pour les autres.
Ouais, les autres athlètes de Nike. Ouais.
Exact. À suivre. C'est un très beau cas marketing. C'est un très beau cas d'étude que le marketing sportif au HEC ou dans d'autres institutions pourra traiter, mais Eugénie, vraiment un beau cas. Mais encore une fois, c'est toujours la question de est-ce qu'une marque, il y a toujours le risque de la marque s'associer à une personnalité. S'il se passe quelque chose qui ne fait pas l'affaire de la marque, ça peut casser très vite. Donc, il y a toujours un risque. Mais il y a des gros gains à faire pour une marque si ça se passe bien aussi.
Ben, c'est ce que j'allais dire aussi. J'imagine que pour Eugénie, si par exemple elle revient en force et qu'elle perd, qu'elle revient au sommet où elle était, bon, j'imagine que ce serait tentant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'Adidas propose? Qu'est-ce que Uniqlo propose pour après ça dire à Nike, ben c'est parce que là, il y a Adidas et Uniqlo qui m'offrent tant. J'imagine que aussi, c'est quelque chose qui peut faire partie de l'équation.
C'est la game. On sait que Neymar vient de passer avec Puma. Et Neymar, c'était un flagship chez Nike. Là, évidemment, il y avait sa ligne à lui. Ça faisait au moins 10 ans qu'il était avec Nike. Il vient de passer à Puma. C'est sûr que tous les athlètes vont sonder le marché à tout moment pour voir ce qui est plus payant pour eux. Oui.
Avant qu'on tombe sur le tennis local, je veux t'entendre sur l'UTS. On en a glissé quelques mots. C'est une façon pour le tennis de se rajeunir. Toi, tu vois quelle place à l'UTS à court, moyen puis peut-être long terme dans le monde du tennis?
J'ai de la difficulté en ce moment à avoir une vision sur le long terme pour eux. Ils ont profité évidemment d'un moment très très spécifique là avec la pandémie pour pouvoir mettre sur pied un tournoi avec des joueurs qui habitaient pas très loin pour créer une bulle, mais aussi tester des éléments qui devaient être testés. Donc ils sont allés avec des pros plus loin que par exemple ce que l'ATP fait avec les Next Gen. Donc vous avez vu les tournois de fin de saison avec les 8 meilleurs, un peu le master des plus jeunes. Ils vont essayer des choses. Ils vont avoir plus d'éléments vidéo, plus de mise en scène au niveau de l'arrivée des joueurs. Des trucs plus basiques comme des tournois avec des lignes de simple seulement, pas de couloir de double. Mais l'UTS est allé plus loin. Puis là, ils ont joué vraiment sur cette intersection entre le virtuel et le réel, entre le jeu vidéo et le réel. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. L'objectif de Mouratoglou, rajeunir la franchise de fans, la base de fans, c'était ça le principal moteur derrière l'UTS. Il y a des choses bien et moins bien. Bon, je pense de jouer très fort, souligner sur les surnoms des joueurs. Moi, ça m'a énervé beaucoup. Jouer sur les personnalités, je trouve ça bien, mais c'était presque caricatural. Là. Que le gars s'appelle The Wall ou que le gars s'appelle...
The Greek God, il n'y a rien à
conclure. Mais c'est ça. Ça, c'était un peu un couteau à double tranchant. Là. Et là, ça fait un petit peu mascarade. Mais bon, ça, donc ça, je comprends ce qu'ils voulaient faire. Ils veulent construire les personnalités, laisser les gars s'exprimer. Tu vois un Benoît Paire qui le fait spontanément, puis en plus, il en met peut-être un peu trop à l'UTS. Là, je trouve que ça devient un peu décrédibiliser le truc. Donc, mais c'est un laboratoire qui doit avoir lieu. Maintenant, est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça va avoir une place régulière sur le calendrier? C'est pas une seconde ligue, parce que les gars, encore une fois, gèrent leur année, gèrent leur énergie. Ils sont très sollicités durant toute l'année. Et on va se le dire, ils ont pas communiqué les prize money. On sait pas ce que les gars ont eu pour aller là. Ils ont repris l'entraînement plus tôt dans des conditions intéressantes avec des bons adversaires. Ce qui était le principal driver pour que les gars aient joué là, c'était vraiment ça. C'était un beau camp d'entraînement, là. Mais au-delà de ça, j'ai de la misère à voir comment l'UTS pourra prendre une place permanente sur le circuit. Par contre, il y a tellement bousculé de choses que je serais pas surpris que l'ATP veuille parler avec lui pour justement travailler sur un laboratoire de développement de l'expérience tennis et du game day. Comment le game day se passe? Comment le format du tennis est repensé pour que les diffuseurs, qu'ils soient des diffuseurs traditionnels ou OTT, soient mieux servis par le format du tennis? De raccourcir le temps de jeu et de jouer sur un format de télédiffusion qui est plus intéressant. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'au niveau broadcast, au niveau de l'animation, le niveau était très moyen. Je vais peser mes mots, là. J'aime beaucoup mieux entendre nos présentateurs, commentateurs québécois, Paul Rivard, avec Valérie, ou Hélène avec Yvan Ponton. Yvan. Ça fonctionnait pas très bien au niveau du broadcast team. Mais encore une fois, c'est un laboratoire qui est nécessaire parce que l'ATP est trop lente à le faire. Ils sont bloqués, là, sur cette franchise ultra payante de fans qui ont 55 ans et plus, 60 ans et plus. Et ils font pas les efforts pour les rajeunir. Et c'est un dilemme qui arrive souvent en marketing. Comment tu gardes ta clientèle payante tout en renouvelant ta base sans t'aliéner tes fans les plus vieux? Là, c'est ça le dilemme, là. Donc là, c'est Mouratoglou qui le fait. Il prend pas trop de risques parce que lui, on sait où il s'en va avec ça. 18-34, on bouscule les codes. On essaye quelque chose et donc oui, c'est un beau laboratoire, mais pour la suite, je vois difficilement où il va trouver sa place dans le calendrier. C'est surtout ça, moi, qui est ma question. Et qui sont les commanditaires? Quels sont les prize money? Point d'interrogation.
Moi, je verrais peut-être éventuellement, peut-être les tournois développer une espèce de ligue parallèle, peut-être. Tu sais, l'annexer, par exemple, je dis n'importe quoi, mais à la Coupe Rogers, puis tu fais une petite compétition UTS pour ajouter peut-être, je sais pas, une espèce de cachet showdown au tournoi en lui-même. Je sais pas, tu sais, les joueurs sont déjà là. Est-ce que les grands joueurs vont le jouer? Possiblement pas, mais tu sais, pour un joueur qui se fait sortir au premier tour, ça peut peut-être être intéressant d'aller chercher un match de plus, puis l'organiser, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Enfin, c'est peut-être une alternative. Pour moi, Mouratoglou, il a mis des choses en lumière qui sont l'évidence même. Par exemple, présenter l'échauffement, pour moi, pour les télédiffuseurs, ça fait aucun sens parce que coupe 15 minutes à chaque fois et tu vas gagner un peu de temps. Les athlètes sont en masse capables de se préparer en dehors des caméras. Alors, l'échauffement, pour moi, c'est quelque chose que tu mets que j'avais jamais vraiment réalisé parce qu'on est habitué à ça, de voir les joueurs arriver sur le terrain. Mais il reste que d'un point de vue du télédiffuseur, ça tombe sous le sens de ne pas présenter l'échauffement. On s'en fout de l'échauffement. Tu sais, le build-up prend 2 minutes au début du match entre deux échanges. T'en as plein de temps mort au tennis pour faire ton build-up de toute façon. Alors, ça, il y a des choses intéressantes. Les entrevues entre 7, pour moi, ça devrait, dans le contexte actuel, devenir toujours l'évidence même. Maintenant, je sais que les joueurs vont être plus réticents par rapport à ça, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant, les entrevues entre les 7 et choses. Alors, il y a mis certaines choses quand même en lumière qui, pour moi, font beaucoup de sens et, comme tu dis, qui méritent de discuter peut-être avec l'ATP.
Et aussi le coaching. Je veux souligner le coaching parce que
oui.
des grands moments de médias et sur les réseaux sociaux, on les a vus passer, là, Sylvain Bruno avec Andreescu, notamment. C'est des choses que les gens souhaitent entendre et c'est ça qui t'accroche au tennis. Tu vois, cette relation, cette difficulté que le coach t'aide à surmonter, il te donne le bon tip, il te pousse psychologiquement, c'est fascinant, je trouve, ces moments-là. Donc, je pense que le coaching permis, c'est quelque chose que j'aimerais voir de façon de plus régulière et diffusée aussi pour qu'on l'entende au niveau de l'ATP.
Non, exact, exact. Pour toi, est-ce que ça reste quand même une expérience concluante, autant d'un point de vue télévisuel qu'un d'un point de vue économique que d'un point de vue tennis, le
Écoute,
sport en lui-même?
D'un point de vue économique, je ne me prononcerai pas sans voir les chiffres. Chiffre d'audience, chiffre de prize money, chiffre de commanditaire, c'est quoi les sources de revenus? Donc, on va en reparler quand il y aura plus d'éléments qui seront communiqués. Au niveau tennis, j'ai trouvé ça, bon, génial de voir du tennis quand il n'y avait pas rien qui se passait. Donc, enfin, j'avais quelque chose à me mettre sous la dent. Et c'était des très bons joueurs. C'était des joueurs de premier plan, là. C'est ça, c'était vraiment intéressant. Donc, au niveau tennistique, même si les gars n'étaient pas à 100%, Ça, on a vu des très, très belles choses. Donc, au niveau tennis, je donne un 7, 8 sur 10. Au niveau du format et de la tentative d'évolution du format du jeu, ben là, je donne un 10 sur 10. Là, ils ont bousculé des codes et c'est ce que je crois que le tennis doit vivre en ce moment pour qu'on passe à une nouvelle génération de fans, fans de sport en général, qui suivent la UFC plus que la boxe, par exemple, quand on parle de sport, un sport de combat, là, évidemment, là, il y a un déplacement vers du marketing que la UFC fait très, très bien à tout niveau, tant du côté des hommes que du côté des femmes, que du format du show télé. Ce que Dana White fait en parallèle, là, il produit un show télé. Moi, je l'ai vu durant un combat au Centre Bell. Il regarde pas ce qui se passe sur le ring. Il est dans son écran tout le temps pour voir c'est quoi le show télé qui vend à ses millions de fans à travers la planète à ce moment-là. Donc, il faut retravailler le show télé du tennis. Et je pense que Mouratoglou a donné un bon coup de pied dans la canne du tennis avec son format. Et ça va faire bouger des choses dans le bon sens.
Si je lis entre les lignes, toi, tu serais plus un partisan peut-être d'un intermédiaire comme la Coupe Laver, plus qu'un format qui est vraiment plus champ gauche comme l'UTS. Et champ gauche, je n'ai pas entendu nécessairement un péjoratif, là.
Ben, encore une fois, où on va le placer? Donc, est-ce que les joueurs vont préférer prendre une semaine ou deux de congé ou aller jouer un ATP 250 ou aller à Mouratoglou ou prendre une semaine de plus pour être frais pour la Coupe Davis? Il y a tellement de choix en ce moment que c'est pas évident de dire c'est quoi mon driver pour aller jouer à Mouratoglou cette semaine. J'ai encore une fois, je le vois pas autre que comme un camp d'entraînement en ce moment. J'ai de la difficulté à le voir comme un rendez-vous fixe sur le calendrier annuel. J'ai vraiment de la difficulté à le voir.
Ben à court terme, oui. Si jamais ils peuvent générer des revenus importants, ben là, l'argent va justifier parce que si tu es capable de donner des bourses intéressantes dans un petit tournoi de fin de semaine, je ne sais pas si tu peux offrir un 100 000 ou 200 000 $ pour un joueur pour aller jouer une fin de semaine. Il y en a peut-être beaucoup qui vont y aller.
C'est certain. C'est pour ça que je te dis, je veux voir les chiffres.
Avant qu'on termine, on va aller sur une échelle un peu plus locale parce que je pense que c'est quelque chose qui te touche particulièrement, le tennis local, d'un point de vue amateur. Fais-nous un peu ton pitch de vente parce que je pense que ça passe par là aussi de créer une espèce de base partisane pour la Coupe Rogers. Ça part dans les tennis, dans les centres de tennis locaux, puis ça part des gens qui jouent dans ces centres de tennis-là.
Ben ouais, tout à fait. C'est dans ton club que tu commences à aimer l'environnement, l'écosystème du tennis, à jouer en compétition un peu, à voir les coachs et tout ça. Bon, moi j'ai commencé à Repentigny à l'époque du club Nautilus Plus de Repentigny, où Sylvain Bruneau, en passant, a fait ses premières armes de coach avec beaucoup de succès. Il y a beaucoup de joueurs, de bons joueurs qui sont sortis de là-bas. C'était Sylvie Tétrault aussi qui coachait là-bas, qui est la tante à Valérie, Marie-Ève Pelletier, Jocelyn Robichaud, tous ces gens-là sont venus de Repentigny. C'est là que je suis tombé amoureux du tennis, que j'ai commencé à jouer à un niveau compétitif club, à un niveau très, très moyen, je dirais, à l'époque. J'ai commencé tard à jouer au tennis. Moi, je suis un joueur de hockey à la base. J'ai commencé à 13 ans, 14 ans à jouer au tennis. Et c'est plus je vieillis, je me dis, je vais être dans le top 100 pour les plus de 100 ans. C'est un petit peu mon but à terme. Donc, top 100, over 100. Mais donc, j'ai quand même progressé au fil des ans. Mais oui, le club de tennis, c'est un endroit important. C'est un endroit où tu dois amener vraiment une clientèle plus jeune pour réussir à mettre en place une suite au niveau du tennis. Je voulais parler du niveau du tournoi vétéran, donc de la ligue en fait de tennis des vétérans du Québec là qui existe depuis plusieurs années pour les 35 ans et plus. qui est mené à bout de bras par Lucien Desmarais avec son épouse Lise. Ils font un boulot qui est fantastique pour garder cet esprit de compétition qu'on puisse bâtir au niveau des clubs, qu'on va entretenir au niveau des ligues. Mais on veut toujours se pousser le plus haut possible. Donc le circuit des vétérans du Québec offre cette possibilité-là pour tous les 35 ans et plus par groupe d'âge. C'est par 5 ans que ça fonctionne. Donc 35 plus, 40 plus, 45 plus. Si t'es plus vieux, tu veux jouer plus jeune, tu peux essayer. Mais tu as au moins la chance dans ton groupe d'âge de progresser. Puis, il y a une dizaine de tournois par année, terre battue extérieure. Ils ont réussi à en faire 3 quand même cet été. Il y a le tournoi de Saint-Lambert qui arrive le week-end prochain, qui sera le dernier tournoi extérieur et on revient à l'intérieur après. Donc, une dizaine de tournois. Toujours une ronde de consolation si jamais tu passes pas le premier tour, donc tu as 2 matchs de garantie, c'est quand même bien. Mais c'est un milieu qui est extrêmement agréable puis qui entretient cette passion-là pour un groupe de joueurs, puis qui fait que le joueur de club peut dire OK, je vais m'essayer à un tournoi provincial. Ce qui est difficile, par contre, c'est que tu tombes... il n'y a pas de série au Québec. Hein, comme en France, tu as série 1, 2, 3, 4. Ici, t'es classé 50e ou 150e. Tu peux jouer contre le premier joueur du Québec ou du pays en premier tour. Et ça peut être compliqué un peu et te prendre un 6-1, 6-0. Mais tu peux te mesurer quand même, semaine après semaine, dans un format de tournoi qui peut t'amener aussi à jouer un tournoi ITF. À chaque année, il y a un tournoi de l'ITF qui joue au Mont-Tremblant. Donc, la Coupe Tremblant là, qui est très populaire aussi pour les vétérans. Il y a beaucoup de joueurs de l'Association des vétérans du Québec qui vont jouer à Tremblant aussi. Il y en a eu un à Québec aussi l'été passé. Donc, c'est vraiment bien qu'on ait accès à ce type d'événement-là. Mais bon, là je parle de mon groupe d'âge de 50 ans et plus qui est touché par ce format-là, mais évidemment, c'est au niveau des clubs que le recrutement, que le dynamisme des coachs, des ligues, de l'entraînement, du mini-tennis va faire que la prochaine génération va être là. Puis moi, je pense que les clubs du Québec tentent beaucoup de choses en ce moment. Ils se sont rafraîchis beaucoup au niveau des surfaces, des installations. Il y a un choix énorme en ce moment. Il y a toujours l'enjeu de comment on joue l'hiver de manière accessible. Tennis Canada a fait un de ses chevals de bataille, là, s'assurer qu'il y a de plus d'espaces extérieurs, c'est-à-dire extérieurs qui deviennent couverts avec des bulles, par exemple, qui sont accessibles pour jouer à des coûts raisonnables. Et c'est comme ça que le tennis pourra vraiment être vu comme un sport de grand public à l'année. Mais je suis convaincu que les inscriptions pour les mini-tennis en ce moment, pour les moins de 7 ans, sont en hausse, justement à cause du marketing, du moteur marketing fabuleux que sont les victoires en ce moment qu'on a au niveau international avec les Félix et autres.
Et on l'annonce, tu vas venir nous parler de temps à autre de tennis local, de tennis de club, et justement, il y a peut-être une annonce qui sera fait vendredi. On en parlera au prochain podcast, une petite annonce tennis local. On va laisser les gens là-dessus, on n'en dira pas plus. Nico, avant que je termine, tu voulais y aller avec un petit mot?
Non, mais je trouve ça important de le souligner, ce que font les clubs locaux, notamment, là, je prêche pour ma paroisse ici dans la région où j'ai joué toute ma jeunesse dans les clubs, puis souvent les gens qui s'en occupent, qui l'organisent, ils font pas ça pour le salaire ou parce que ça rapporte, mais ils font ça par passion, ils font ça pour nous, pour les fans, puis je trouve ça important de le souligner, puis merci de l'avoir fait.
Et là, moi, je propose, parce que, bon, il y a deux bons joueurs de tennis ici et un fan, c'est moi le fan. Je propose éventuellement un duel sur la ligne entre Nico et Hugues, et moi, je vais faire l'arbitre.
On fait ça.
C'est un rendez-vous.
C'est un rendez-vous. On va prendre un petit extrait sur le format UTS. OK, on fait 4 quarts de 10 minutes. Puis avec
applaudissements en canne.
Et c'est moi qui choisis les cartes. Alors, duel sur la ligne à venir. Là, il en reste moins long à l'été. Là. Si c'est pas prochainement, ce sera l'été prochain. Mais duel sur la ligne entre Hugues Léger et Nicolas. Richard, c'est déjà dans la mire pour le podcast. Ça va être un duel épique. Et peut-être que je vous ferai un montage. J'irai filmer ça. Je ferai un montage comme si vous étiez Roger.
J'espère que je n'aurai pas de crampe.
Ah, ben, je vous souhaite, mais regarde, il a l'air en forme, notre petit Hugues Léger encore. Là. Merci beaucoup, Hugues, pour ton temps. Merci tu vas revenir nous parler. Tu es invité t'es invité autant de fois que tu veux. Et puis, ben, de toute façon, comme on l'a dit, tu vas venir nous parler assez régulièrement de tennis local. Puis, on trouve que c'est important aussi, là, peut-être quelques fois par mois, là, tu vas venir nous parler peut-être deux fois par mois de ça. Puis, tu reviens nous parler de l'économie de tennis. Puis, si on a des questions, on va t'inviter. Puis, merci beaucoup. T'as été incroyable. Merci infiniment. Infiniment, t'es invité. Et Nico, je te laisse le mot de la fin habituel.
Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde. Voilà.
À très bientôt.
Bye-bye.